influencé par d'autres. Et c'est ce à quoi on a le devoir de veiller. Supposer que des jeunes soient fortement influencés dans un sens qui ne nous paraît pas très bon, ben, nous avons un devoir vis-à-vis de ces jeunes, les avertir. Ils ne peuvent pas savoir à cet âge-là ce qu'ils pourront apprendre, avoir appris 30 ans plus tard. Ils ont besoin d'être aidés. Et que le Seigneur donne à ceux qui craignent Dieu d'être là pour leur aider. Et une situation qui peut devenir grave, manifestation d'indépendance, si c'est individuel, cela ne va pas bien loin, à condition qu'il y ait des saints pour surveiller un peu la jeunesse, même sans en avoir l'air, l'avertir, prier pour elle, avant tout. Mais si jamais cette jeunesse était entraînée par des personnes, même chrétiennes, vers des activités qui pourraient prendre le caractère d'un certain caractère de dissidence, dangereuse là, dissidence, une tendance à mépriser la vérité indiscutable qu'est l'Assemblée de Dieu, qu'est un rassemblement local. Alors, la chose peut devenir sérieuse. Et alors, il pourrait y avoir là, dans l'affaire, pas nécessairement les jeunes, peut-être, mais quelqu'un que le Seigneur pourrait qualifier de vase à déshonneur, car il n'y a rien qui soit précieux au Seigneur comme ce qui représente son Église. C'est là qu'il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il n'est pas de la même manière dans un groupe formé par des hommes dont tous seraient des chrétiens. Il n'est pas là de la même manière, ne le pensons pas. Il n'a pas fait cette promesse. Être réuni au nom du Seigneur, ce n'est pas un beau jour s'entendre pour aller se rencontrer quelque part et dire le Seigneur est avec nous. Ça n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Le Seigneur ne se livre pas comme cela. Et les bonnes intentions de chrétiens qui seraient tous authentiques chrétiens ne suffisent pas du tout à réaliser la pensée divine. Nous avons le terrain du rassemblement, un terrain sacré. Cela nous a été donné à connaître. Nous sommes réunis autour du Seigneur. Nous cherchons sa présence, nous pouvons la trouver dans toutes les réunions. Tout ce qui contribue à nous la faire perdre est un mal de la plus grave sorte. La plus grave sorte. Bon, voyons un peu les suites. Supposons qu'il y ait une activité telle que l'on ne jouisse plus du tout du Seigneur dans l'Assemblée. Et l'Assemblée ira à la dérive, elle risque d'aller à sa perte. Et même si extérieurement, rien n'est changé tout de suite. Le bien suprême des saints et instruit par l'Écriture, c'est la présence du Seigneur, là, au sein réunis en son nom. Nous n'avons pas d'organisation ecclésiastique, cela ne veut pas dire que le Seigneur et les fidèles tolèrent tous les désordres et toutes les initiatives. Ce n'est pas le seul lieu du monde où la chair peut faire ce qu'elle veut sans être réprimée, comme disait justement notre conducteur. Ce serait étrange, ça ne peut pas être, ce serait le seul lieu au monde où n'importe qui ferait n'importe quoi sans qu'on dise rien. Il y a au contraire une autorité suprême et le Seigneur peut châtier d'abord les coupables et puis l'Assemblée elle-même en ôtant la lampe. Le problème des jeunes est réel et il est partout. Qu'il soit donné à tous les frères et sœurs d'y penser et de veiller sur la jeunesse. Elle est l'avenir des assemblées, c'est clair. Mais que personne, pour des raisons personnelles, qu'aucun frère d'ailleurs, aucun frère, même un frère, ne détourne la jeunesse de ce qui est son privilège, la jeunesse chrétienne, de ce qui est son privilège essentiel, jouir de la présence du Seigneur. Et si cette jeunesse est enseignée à s'attendre au Seigneur, si nous l'encourageons dans son là, c'est le Seigneur qui se chargera d'indiquer aux jeunes ce qu'il attend d'eux. Depuis tant avons-nous vu que quelqu'un d'autre que le Seigneur a le droit d'orienter ceux qui lui appartiennent dans un sens ou dans un autre. Où trouvons-nous cela dans l'Écriture nulle part? Et nous devrions reculer avec effroi, chacun d'entre nous, à tout ce qui, de notre part, risquerait d'être une influence sur des jeunes qui ne viendraient pas du Seigneur. Elle ne nous appartient pas. C'est très important et très grave d'avoir à influencer une jeunesse. Très, très grave. De quel droit ferions-nous cela? Alors, s'il y a un serviteur du Seigneur, que le Seigneur a qualifié pour cela, qui a la confiance de l'Assemblée, des frères et des sœurs de l'Assemblée, on peut bien croire tout de même que les frères et les sœurs qui se réunissent autour du Seigneur ont bien autant de crainte et d'intelligence que ceux qui prennent des initiatives sans regarder d'assez près ce que la volonté du Seigneur. On peut bien croire que la pensée des frères et des sœurs peut avoir pour les jeunes une importance primordiale. Et nous devons nous empresser auprès d'eux de leur rappeler qu'il y a là le centre d'un rassemblement, n'est-ce pas? Un centre, et ce centre est unique. Je ne dis pas unique au monde, mais il est unique dans son caractère. Il n'y en a pas deux. Et qu'il est irremplaçable. Et si dans nos assemblées respectives, il y a quelque chose qui manifeste l'abandon de ce sentiment du caractère du rassemblement autour du Seigneur, que le Seigneur nous éclaire, nous donne de nous humilier et de lui demander qu'il corrige ce qui doit être corrigé. Mais le Seigneur n'abandonne pas les siens comme cela. Heureusement. Nous souhaitons tous le bonheur de la jeunesse. Son bonheur, c'est qu'elle et que personne ne la sépare de Christ. Elle appartient à Christ. Et aidons-lui à se reporter toujours à celui à qui elle appartient et qui l'aime plus que tous les frères du monde. Prenons garde quant à tout ce qui a risque d'avoir un caractère d'indépendant. Et ce ne sont pas les jeunes dans l'affaire qui sont les plus coupables toujours. Un caractère d'indépendance contenant en soi un germe de dissidence. Faisons très attention à cela. Et puis nous parlerons du litige. Et si, à propos de ces questions d'un extrême intérêt, les jeunes peuvent en être persuadés, mais que nous désirons les aimer en Christ. Nous ne pouvons pas les aimer plus que Christ et autrement qu'en Christ. Ce n'est pas l'amour selon la nature qui gouverne les frères vis-à-vis des jeunes ou des autres. Non. C'est l'amour versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. La nature disparaît dans cela. Eh bien, s'il y a dans nous, et c'est toujours nécessaire, dans nos assemblées, des exercices à avoir pour que la présence du Seigneur soit, pour ainsi dire, tangible, et que tout le monde en jouisse, eh bien, ne cessons pas de prier. Nous avons des réunions de prière. C'est pour cela. Ce n'est pas seulement pour demander la conversion des âmes, des pécheurs, partout. Mais c'est avant tout pour demander le maintien de l'assemblée locale, qui est la joie de Christ et sa gloire. Et en même temps, la joie des âmes.
Dans un tel milieu, le milieu de la grande maison, nous sommes donc exhortés à poursuivre, à persévérer malgré tout. On pourrait se décourager en voyant l'état de cette grande maison, en voyant notre témoignage individuel et collectif. Et voici que l'apôtre, conduit par le Seigneur, nous exhorte à persévérer quand même, à poursuivre. Et qu'est-ce que nous avons à poursuivre? Quatre choses. Mais nous remarquons que ce n'est pas l'amour dont on parle souvent, beaucoup, que l'on revendique, que l'on exige facilement de nos frères et sœurs. Ce n'est pas l'amour que nous avons à poursuivre d'abord, c'est la justice. On le comprend très bien. Dans un grand système, la grande maison, il faut bien le dire, la parole le dit, qui est caractérisée par cette iniquité ou injustice, eh bien le témoin fidèle du Seigneur poursuivra tout d'abord cela, la justice. Et alors, en poursuivant la justice, il montrera l'amour qui revient au Seigneur, dont le Seigneur est justement digne. C'est ainsi qu'il montrera son amour pour le Seigneur, en poursuivant la justice, puis la foi. Cet ensemble des vérités chrétiennes auxquelles notre foi s'attache. La justice, la foi, et puis seulement en troisième lieu, l'amour. Nous avons besoin de poursuivre l'amour. Nous le répétons, pourrait être découragé, notre amour pourrait se refroidir. Du reste, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit à la fin de sa carrière à ses disciples en parlant d'un temps futur. Parce que l'iniquité, Matthieu 24, parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs, et il faut comprendre là de beaucoup, du grand nombre, sera refroidi. C'est un passage qui nous a toujours beaucoup frappé dans la bouche même du Seigneur, parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Eh bien, l'iniquité prévaut, cela ne fait pas doute si nous regardons ce vaste système de la grande maison, que le Seigneur nous accorde de ne pas nous refroidir dans notre amour pour lui, pour sa parole et pour son témoignage. Et enfin, quatrième caractère, le dernier, la paix. Et combien cela nous juge aussi, en pensant que nous serions disposés à rechercher une paix à tout prix. Ah, pourvu que nous soyons en paix, le reste m'importe peu. La parole de Dieu ne nous enseigne pas ainsi. La justice, la foi, l'amour, et alors nous pourrons connaître une paix réelle, une paix ferme et solide, si les choses premières sont recherchées. Nous avons déjà cette pensée dans l'Ancien Testament, quand le prophète Zacharie, au chapitre 8 de son livre, dit ceci, « Aimez donc la vérité et la paix ». Nous pouvons lire ce verset à la maison, nous verrons tout d'abord, il est parlé d'assemblées, d'heureuses assemblées. Vous voulez d'heureuses assemblées, dit le prophète. Eh bien, commencez par le commencement, recherchez, aimez donc la vérité et la paix. Vous saurez ce que c'est que la paix, parce que vous cherchez la vérité, parce que vous aimez la vérité, parce que vous tenez compte de la pensée de Dieu qui tout entière est vérité. Et alors, en même temps, sur un plan collectif, vous saurez ce que c'est que de connaître d'heureuses assemblées. Mais pour cela, il faut aimer la vérité, et alors nous pourrons connaître la paix. Ce sont des enseignements d'une très grande importance, et nous insistons en terminant sur ce verbe « poursuivre ». Poursuis malgré tout. Ne te lasse pas, persévère.
Passage de Zacharie est au chapitre 8e et au verset 19. Et en effet, il y a là un ordre divin. L'amour sans la vérité n'est pas l'amour. Et l'amour et la vérité sans l'amour n'est pas la vérité. Mais l'injonction divine, c'est aimer la vérité et la paix.
Il est clair que l'ordre dans lequel ces choses sont mises n'implique pas que l'une soit supérieure à l'autre. Mais elles sont mises dans cet ordre parce que chacune ne peut être goûtée, réalisée, ne peut avoir son existence véritable que si les précédentes l'ont été. S'il y avait même une hiérarchie, on pourrait dire que ce sont les dernières mentionnées qui seraient les plus importantes. C'est cela, généralement, dans les énumérations. Mais ici, nous comprenons que la foi ne peut pas être gardée pure si la conduite n'est pas, si la marche n'est pas droite, s'il n'y a pas de justice pratique, et que l'amour ne peut pas être là, réel, éprouvé, goûté, si la foi et la justice ne sont pas gardées, et la paix, enfin, ne peut pas être éprouvée. On trouve cela au tout début des épîtres à Timothée, dans le premier chapitre de la première épître, quand il est dit « Or, la fin de l'ordonnance », c'est-à-dire le but pour lequel l'ordonnance est donnée, n'est-ce pas, les enseignements et les exhortations et injonctions que je décris. Dans quel but? Eh bien, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour. Voilà le but cherché, le but suprême, si on peut dire. Mais alors, l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience, voilà la justice pratique, et d'une foi sincère. Dans notre verset du chapitre 2 de la deuxième épître, à l'amour est joint, ensuite est jointe ensuite la paix, comme le couronnement de tout ce qui a été poursuivi jusque-là.
Et puisque nous en sommes aux jeunes encore, il y a là, nous pouvons y revenir, il y a là un enseignement qui est bien pour leur âge et pour le nôtre. Fuir les convoitises de la jeunesse, dont un frère à l'œuvre autrefois disait qu'elles poursuivent, elles peuvent poursuivre les chrétiens jusqu'à leur âge avancé. Voilà une merveilleuse exhortation. Quel mal font les convoitises? Quel mal aux chrétiens ne font-elles pas? Pourquoi en est-il si fréquemment parlé dans les exhortations faites aux chrétiens? Les convoitises de toutes sortes. Celles qui paraissent avoir des sources plus hautes, comme celles qui ont des sources très viles. Voilà. Voilà où nous pouvons porter de l'intérêt à la jeunesse. Lui aider à trouver le secret pour ne pas être à la merci de ses convoitises, la volonté propre, au fond, est. On vient en fait. Peut s'y ranger aussi, s'y placer aussi. Et qu'est-ce que tout cela met aussi en évidence? Que ce qui importe, c'est un état intérieur. Le secret de la vie extérieure, c'est un état intérieur. Si un homme vit avec Dieu et de Dieu, il est impossible qu'il ne soit pas fidèle au dehors. S'il ne vit pas de Dieu avec Dieu, il n'est pas possible qu'il soit fidèle au dehors. Les choses clocheront d'une manière ou d'une autre. Et comme nous ne pouvons pas prétendre à l'absolu, nous en arrivons à ceci, que la qualité de notre marche à tous dépend de la réalité de notre vie intérieure avec le Seigneur. Eh bien, soyons exercices pour qu'elle soit plus riche. Tout le monde en bénéficiera. Les jeunes en tête.
Invoquer le Seigneur d'un cœur pur n'implique pas, cela va de soi, mais encore faut-il le dire, que l'on s'estime meilleur que d'autres, ou que son cœur notre propre cœur soit plus purifié que celui d'un autre. Ce n'est pas une question de comparaison avec d'autres. C'est, et nous rejoignons ce qui vient d'être dit, une question de relation personnelle avec le Seigneur, le résultat en étant manifeste dans la manière d'être. Car nous avons à reconnaître ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cœur pur, c'est le cœur qui est occupé du Seigneur. Le cœur qui ne se laisse pas détourner, soit par les choses extérieures, soit par ce qui nous accompagne effectivement pendant toute la carrière, c'est-à-dire les convoitises qui apparaissent et qui sont si tumultueuses dans la jeunesse.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous pouvons le voir dans la mesure où nous avons le cœur pur. Le voir, évidemment, c'est spirituellement parlant. Mais quand Dieu remplit le cœur de quelqu'un, ce quelqu'un le sait fort bien. On a dit aussi qu'un cœur pur, c'est quelqu'un qui n'a que Dieu comme objet. Il n'a pas d'idole. C'est peut-être rare de trouver des chrétiens qui n'ont pas une idole.
On peut citer le premier verset du psaume 73. Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur.
Et l'une des manifestations les plus pernicieuses, et pourtant bien fréquentes, hélas, disons en notre confusion, de cette propre volonté et de cet orgueil qui accompagne tant de convoitises, c'est de soulever toutes sortes de questions avec la pensée de les résoudre, des questions difficiles ou de disputer des questions difficiles dans le domaine précisément des choses de Dieu. Il s'agit ici de questions insensées, de questions folles, indisciplinées, selon la note nous le dit, des questions qui sont le fruit de la propre volonté et qui en réalité ne procèdent pas du tout du désir de connaître davantage le Seigneur. Cela, c'est le cœur pur. Mais le désir est de se satisfaire soi-même par une connaissance supplémentaire et une connaissance que les autres n'ont pas. La recherche, par conséquent, est de l'originalité, la recherche est de questions très particulières, de questions piquantes qui fera dire oh, comme il a réfléchi, comme il est capable, comme il est instruit, etc. Quel danger que celui-là, rien de pire qu'un tel sentiment, rien de pire que l'orgueil spirituel engendrant les questions folles et insensées, dont le résultat, la génération, c'est la contestation. Elles engendrent des contestations. On a vu les disputes de mots sans aucun profit pour la subversion des auditeurs. On a vu les discours vains et profanes qui rongent comme une gangrène. Et voici l'activité de la chair se produisant contre la chair chez d'autres, les contestations. Quelle chose funeste dans la vie chrétienne, quelle chose funeste dans les rassemblements. les contestations. Mais il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste. Le Seigneur, comme cette expression, comme ce terme, cette appellation, revient souvent, revient de façon caractéristique dans tout ce passage. Verset 14, protestant devant le Seigneur, qu'on n'ait pas dispute de mots. Verset 19, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Il se retire d'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Verset 22, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste. Quand il s'agit de la grâce, des bénédictions dont il est la source, c'est plutôt le nom de Christ que nous trouvons. Quand il s'agit d'obéissance de la part de ceux qui lui appartiennent, quand il s'agit de ses droits, de son autorité, et par conséquent de notre responsabilité qui accompagne notre grand privilège d'être les esclaves d'un tel maître, alors c'est le Seigneur.
Quel enseignement important nous avons là dans ce sujet des disputes et des contestations, et combien nous devrions prendre garde à cet égard, à l'égard de tout rassemblement où le ministère de la parole est réalisé, mais d'une façon particulière dans les réunions d'études de la parole de Dieu, et encore bien davantage quand il s'agit de grands rassemblements comme celui-ci de ce jour, ici même, ou sur le plateau. Combien les frères qui prennent quelque action devraient prendre garde d'éviter tout ce qui peut donner lieu à des contestations. Il y a des questions délicates dans la parole de Dieu, mais il y a aussi un esprit de sagesse qui me dictera, qui m'invitera à ne pas poser de questions semblables. J'irai au contraire auprès d'un frère, dans le secret, dans le particulier, un frère que le Seigneur a qualifié pour m'instruire et m'éclairer à l'égard de ces questions délicates. Si nous avons toujours devant nous l'édification de l'ensemble, et combien la chose est importante quand il s'agit d'une assistance comme celle de cet après-midi, d'avoir devant nos yeux et nos cœurs la pensée de l'édification de l'Assemblée, alors nous éviterons ces questions folles, insensées. Nous rechercherons toujours ce qui édifie. Nous ne disons pas qu'il faut passer par-dessus les questions délicates qui sont soulevées par la parole de Dieu, mais nous le répétons, le Seigneur a suscité, grâce lui soit rendue, des frères qualifiés pour nous instruire. Nous serons heureux d'aller auprès d'eux et ces frères nous éclaireront certainement. Le fait de rechercher la contestation est un besoin de se singulariser. On a parlé tout à l'heure de cette recherche de l'originalité. Il nous semble qu'elle est clairement exprimée dans le premier verset du chapitre 18 du livre des Proverbes.